Chine, après le 18e congrès du Parti communiste et la succession au sommet de l'État. Le Parti communiste chinois, PCC, qui dirige le pays depuis 1949, a tenu son 18e congrès en novembre 2012. Le plus grand parti au monde, 86 millions de membres revendiqués, a organisé la succession à la tête de l'État en désignant son nouveau secrétaire général, Xi Jinping, et son numéro 2, Li Keqiang. En mars 2013, l'un et l'autre remplacent Hu Jintao et Wen Jiabao, respectivement comme président de la République et premier ministre. Mais derrière le théâtre d'ombre bien ordonné du Congrès et à l'abri des regards de la population, des luttes féroces se livrent entre caciques du régime. La presse occidentale a fait ses gorges chaudes de l'affaire Xile, du nom de ce dirigeant dont la chute a été aussi rapide que son ascension avait été fulgurante. Une affaire qui n'est sans doute que la partie émergée des conflits et rivalités internes au cercle dirigeant du PCC. Si la succession à la tête du PCC suscite un intérêt en Occident, c'est bien sûr parce que le PCC dirige le pays le plus peuplé du monde depuis 1949. Mais c'est aussi en raison de la place grandissante de la Chine dans les relations internationales à la suite de son développement économique. C'est sur cette croissance économique que nous voudrions revenir ici. Après 30 années à 10% de moyenne annuelle, la hausse du produit intérieur brut, PIB, s'est ralentie depuis 2008 et la crise économique mondiale. Elle reste cependant à 7 ou 8% par an, très largement supérieure à la croissance mondiale, en particulier à celle des pays riches. Entre 2007-2012, le PIB de la Chine a augmenté de 60%, celui de l'Union européenne et des États-Unis de 3%. Et certains pays industrialisés ont tout simplement vu le leur régresser de l'Irlande à la Grèce ou à l'Espagne. En volume, la Chine est maintenant la seconde économie du monde et peut escompter dépasser les États-Unis dans les années à venir et devenir, en 2020, à en croire un certain nombre d'économistes, la première puissance économique mondiale. Nous avons déjà eu l'occasion d'en discuter et ne comptons pas y revenir ici. Il s'agit en partie d'un succès en trompe-l'œil, si on le rapporte à la population des deux pays, respectivement 1,35 milliard et 315 millions d'habitants. Voir Chine, l'économie d'une grande puissance, lutte de classe numéro 133, février 2011. En termes de revenus par habitant et de niveau de vie, la Chine reste un pays sous-développé, se plaçant, selon les classements, entre le 90e et le 100e rang mondial, quelque part entre l'Albanie, la Jamaïque et l'Équateur. En revanche, l'ascension de la Chine est indéniable et se manifeste de différentes façons, y compris politiquement, dans les relations internationales. Cette progression est imputée à la libéralisation engagée à partir de 1978. Ce postulat est devenu, sous la plume des commentateurs patentés, une sorte de vérité établie, presque un lieu commun. Alors que le maoïsme et l'étatisme étaient synonymes de stagnation, le capitalisme et le libéralisme lui auraient apporté dynamisme économique et progrès matériel. Eric Israelevitch, qui fut directeur du Monde et l'auteur de deux livres sur la Chine, écrivait ainsi dans un supplément du journal « Chine, de la révolution à la naissance d'un géant, novembre 2012 ». Ouvrez les guillemets. « La vraie révolution, celle qui va déclencher en Chine le décollage économique et permettre à l'Empire de retrouver sa place dans la communauté internationale, ce n'est pas 1949 ». C'est donc bien davantage 1979. Fermez les guillemets. Autrement dit, le contraste entre les périodes 1949-1978 et 1979-2012 offrirait une confirmation de la supériorité du marché sur la planification et du capitalisme sur le socialisme. C'est de cette contre-vérité dont nous voudrions discuter ici en cherchant à répondre à deux questions. D'abord, la période maoïste, 1949-1978, a-t-elle été la stagnation, la glaciation, voire la régression économique si souvent décrite par les commentateurs? Ensuite, l'essor économique de la période 1978-2012 s'explique-t-il par la transformation de la Chine en une économie de marché? Enfin, qu'en est-il de la bourgeoisie chinoise? 1949-1978, les progrès résultant de l'étatisme. Au XIXe siècle, alors que l'Europe occidentale puis les États-Unis connaissaient leur révolution industrielle, la Chine en fut incapable. Elle avait pourtant connu un essor démographique considérable, sa population ayant été multipliée par 5 entre 1400 et 1820, grâce à une amélioration des rendements agricoles. Comme l'Europe occidentale, elle connut au XVIIIe siècle un essor de son artisanat, textile, fonderie, porcelaine, et les emprunts faits par l'Occident à la Chine furent alors nombreux. En raison de sa population importante, la Chine avait une production manufacturière quantitativement supérieure à celle de l'Occident. Et, vers 1800, son niveau de développement n'était pas inférieur à celui de l'Europe occidentale. Après les guerres de l'opium, 1839-1842 et 1856-1860, menées par la Grande-Bretagne et la France pour soumettre la dynastie chinoise et précisément ouvrir le marché intérieur, le pays subit une régression. Le régime fut affaibli et progressivement assujetti aux puissances étrangères, l'économie ne connut pas de progrès et la Chine s'appauvrit, pour devenir, au milieu du XXe siècle, le pays le plus pauvre du monde. Un pays comme le Japon, qui avait échappé à la mise en coupe réglée de l'impérialisme, connut à partir des années 1860 une modernisation et un développement industriel menés depuis les sommets du régime. La Chine, pillée par l'impérialisme, en fut incapable. Après la chute de la dynastie Mandchou, le régime nationaliste de Chiang Kai-shek eut pour objectif, entre 1925 et 1949, le développement du pays, mais en vain. Même l'embryon d'industrialisation au cours des années 1920 et 1930 fut limité à des industries légères et quelques villes côtières. Les nationalistes, au pouvoir à partir de 1925, furent en effet tout aussi incapables de procéder à l'industrialisation que la dynastie Qing 1644-1912 sur le déclin l'avait été. La Chine était pourtant une économie de marché et aurait dû, selon la logique des commentateurs libéraux actuels, connaître l'essor que connurent la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, l'Allemagne ou les États-Unis. Il n'en fut rien. Alors que la Chine représentait le tiers de la richesse mondiale en 1800, elle n'en pesait plus que 1% en 1950. C'est dans la période qui suivit, 1950-1978, qu'il faut chercher les bases de l'essor économique. Quand le Parti communiste chinois prit le pouvoir en 1949, après l'invasion japonaise 1937-1945 et la guerre civile 1945-1949, il ne restait pas grand-chose de l'industrie des villes côtières. Le pays comptait 550 millions d'habitants, soit environ 30% de la population mondiale. Mais la plupart des Chinois étaient mal nourris, en mauvaise santé, peu instruits. Par exemple, la mortalité infantile était de 13 à 15%, c'est-à-dire les taux de l'Europe au milieu du XIXe siècle. Quant à l'analphabétisme, il atteignait quelque 80%, et les faibles réseaux d'éducation et de santé avaient été détruits par les guerres. Mis au ban par les grandes puissances capitalistes qui avaient soutenu jusqu'au bout le régime corrompu et vermoulu de Chiang Kai-shek, le nouvel État ne pouvait en outre bénéficier de l'accès au marché mondial ni de l'aide internationale. Jusqu'en 1971, la Chine, bien plus d'un demi-milliard d'habitants, fut même privée de son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, au profit de Taïwan, 8 millions d'habitants, une île où s'étaient réfugiés les tenants du régime de Chiang après la victoire de Mao. C'était le prix à payer pour l'insoumission du régime à l'impérialisme. Jusqu'en 1949, la bourgeoisie chinoise avait tout juste été capable de prélever sa part sur les ressources du pays siphonné par l'impérialisme. Inspirée par le modèle de l'URSS stalinienne, l'État prit alors en charge des pans entiers de l'économie. 80% des salariés des villes travaillant d'une façon ou d'une autre pour l'État. Le nouveau régime nationalisa l'industrie, planifia l'économie et instaura le monopole du commerce extérieur. La production industrielle augmenta de 11,5% en moyenne par an entre 1952 et 1978. Malgré les crises provoquées par les campagnes catastrophiques que furent le grand bond en avant, peut-être 30 millions de morts de faim entre 1958 et 1961, et la révolution culturelle 1966-1971. La part de l'industrie dans le PIB passa de 18 à 44%. La Chine se dota de la base industrielle dont plus d'un siècle de capitalisme avait été incapable d'accoucher. Ce développement se fit sur le dos de la paysannerie pauvre. Même les campagnes firent l'objet de l'intervention étatique. Le régime regroupa les innombrables propriétés paysannes au sein de collectivités agricoles, les communes. Ce faisant, il permit la diffusion rapide d'un certain progrès technique, l'organisation de la production agricole à une plus grande échelle et la fourniture de services sociaux dans les immenses campagnes. La centralisation et l'étatisation permirent également une, entre guillemets, « révolution verte », d'importants progrès scientifiques améliorant les rendements agricoles. Dès les années 1950, le régime mit en place un système de recherche à plusieurs niveaux. Un maïs hybride fut introduit en 1961. 30 ans plus tard, 90% des zones cultivées l'utilisaient. En 1974, un riz à haut rendement fut introduit. Une industrie d'engrais azotés fut également mise sur pied à partir de 1973. Ces innovations furent à l'origine d'une hausse de la productivité agricole qui permet de comprendre que le pays n'est plus connu de grande famine. Les résultats de cette période sont sans appel. En moyenne, le PIB a augmenté chaque année de 4 à 6 % selon les estimations. L'espérance de vie est passée de 42 ans pour les hommes, 45,6 ans pour les femmes, en 1950 à 66,4 ans, 69,4 ans pour les femmes, en 1982. Quant à l'analphabétisme, il a régressé au cours de la même période de 80 à 16,4 %. Le régime maoïste se voulait égalitaire. Il ne l'était pas réellement. Mais il garantissait à l'ensemble de la population l'accès aux soins, à l'éducation, à la terre et au logement. Ces évolutions sont à comparer avec celles des pays qui n'avaient pas procédé à une étatisation massive. Par exemple, l'Inde, qui devint indépendante en 1947, mais resta en bon terme avec l'impérialisme et put donc recourir aux emprunts internationaux et vendre à l'étranger, demeurait un pays moins développé que la Chine. Elle était marquée par l'arriération, les castes et la misère noire. Le revenu par habitant y était inférieur d'un tiers à celui de la Chine. La population y était non seulement moins alphabétisée, mais en partie condamnée à vivre dans la rue. Bref, l'intégration au marché mondial s'était traduite par la poursuite du pillage de ses ressources, auxquelles, précisément, la Chine avait mis un terme. Et une comparaison avec l'Afrique donnerait un bilan similaire. Le régime de Mao était assurément un pouvoir anti-populaire. Mais, grâce à des réformes bourgeoises radicales, à un certain consensus dans la population paysanne, et à l'étatisme, il put alors faire ce que celui de Chiang Kai-shek n'avait pu réaliser. C'est pendant cette période que les bases institutionnelles, industrielles et sociales de la Chine contemporaine furent posées. 1978-2012, de la réforme économique à la libéralisation. À partir de 1978, le régime a engagé des réformes qui ont progressivement conduit à la libéralisation actuelle. Certains de ces changements furent importants. Et si les dirigeants chinois ont gardé le drapeau rouge, la référence à Mao et quelques éléments de la phraséologie communiste, l'égalitarisme de la période précédente est bien enterré. Entre guillemets, enrichissez-vous, disait sans vergogne Deng Xiaoping qui dirigea le pays de 1978 à 1989. Ses successeurs n'ont pas oublié le message. Mais les réformes furent introduites progressivement et ce n'est qu'avec le recul que leur portée apparaît complètement. La mort de Mao en 1976 facilita la transition opérée sur Deng Xiaoping. Mais l'impasse dans laquelle se trouvait l'économie chinoise, coupée du marché mondial, se faisait déjà sentir auparavant. Entre 1978 et 1984, l'agriculture fut décollectivisée. En 1979, quatre entre guillemets, « zones économiques spéciales » ZES, furent créées au sud du pays, des zones franches où l'État mettait terrains et infrastructures à la disposition des capitalistes étrangers, telle celle de Shenzhen, qui était alors une petite ville frontière de Hong Kong. Le gouvernement chinois voulait d'abord intéresser les capitalistes de cette colonie britannique, alléchés par l'extension de leurs activités dans une ville proche, où le terrain et la main-d'œuvre étaient moins chers. Face au succès des ZES, le gouvernement créa en 1984 les, entre guillemets, « villes littorales ouvertes », permettant aux entreprises occidentales de s'installer un peu partout sur la côte orientale et sur les deltas du pays, notamment dans des villes comme Shanghai. Les prix, qui étaient réglementés, ont été libérés, et les entreprises, même publiques, ont bénéficié d'une certaine autonomie. À partir de 1992, ce retour au marché a connu un nouvel élan. Toute la vallée du Yangtze a alors été ouverte aux investissements étrangers. Un nombre croissant d'entreprises chinoises ont été autorisées à commercer avec l'extérieur et des étrangers à investir en Chine. Ce faisant, de véritables bagnes industrielles ont été constituées. Des grèves, des émeutes, des séries de suicides aussi lèvent parfois le voile sur les conditions de travail dans certaines d'entre elles. Une entreprise de matériel électronique et informatique comme le taïwanais Foxconn, sous-traitant d'Apple, HP, Amazon, Sony ou Microsoft, emploierait 1,4 million de salariés en Chine, dont 400 000 à Shenzhen. La surexploitation est la règle. Même si les salaires des villes manufacturières du littoral sont largement supérieurs aux revenus des familles paysannes qu'ils attirent, ils sont dérisoires par rapport à la valeur ajoutée par ces salariés. Le salaire des ouvriers chinois n'entre que pour 1 ou 2% dans le prix de vente d'un téléphone portable ou d'une tablette. Un État toujours omniprésent. L'économie a connu un essor important, notamment en mobilisant dans un contexte démographique favorable toute cette main-d'œuvre venue des campagnes. Cela dit, les laudateurs du marché oublient que toute une partie de l'économie reste aux mains du secteur public sous ses différentes formes. La Commission d'administration et de direction des biens d'État, SASAC, créée en 2003, gère la participation de l'État dans l'économie. La constitution d'entreprises géantes est souvent citée comme une illustration du « miracle chinois ». Mais en fait, si 57 entreprises chinoises sont en effet dans le classement fortune des 500 plus grandes entreprises au monde, presque toutes appartiennent à l'État, à l'instar de Sinopec, Pétrole et Chimie, China National Petroleum, State Grid, Électricité, China Mobile, Téléphone Mobile, ou encore Huawei, Télécommunications, officiellement possédées par certains de ses salariés. Ce sont des entreprises très profitables qui ont quasiment des monopoles dans le pétrole, le gaz, le nucléaire, l'électricité, les transports, les télécommunications, l'informatique et les services financiers. Basées pour la plupart à Shanghai et à Pékin, ces entreprises ne sont pas les principales sociétés exportatrices, mais sont situées en amont et leur permettent d'exister. Elles sont soit sous le contrôle direct de l'État, soit sous le contrôle des différents échelons de collectivités publiques, provinces, districts, municipalités. Les entreprises d'État bénéficient de nombreuses subventions indirectes, des terres quasi gratuites, des taux d'intérêt très avantageux, une fiscalité bienveillante. Des subventions à l'exportation se font également sous la forme d'investissements publics géants dans les ports, les aéroports, les autoroutes et les zones de développement industriel qui facilitent l'accès des producteurs chinois au marché global. Des secteurs entiers sont subventionnés. Par exemple, l'État chinois a voulu développer ces dernières années son industrie automobile. Il l'a fait entre autres par un carburant très bon marché, parfois à un prix inférieur au cours mondial du pétrole. Bref, bien plus que la « main invisible » du marché, c'est la « main visible » de l'État qui permet de comprendre l'essor économique actuel. La place du secteur public en Chine est difficile à évaluer en raison des différents niveaux de propriété, État central, mais aussi province, mairie ou district. Mais les entreprises d'État emploient peut-être la moitié de la population active et contrôleraient environ la moitié des ressources industrielles du pays. Les grandes banques, Banque de Chine, Banque industrielle et commerciale, Banque de construction, Banque agricole, sont également sous le contrôle du parti. Comme les grandes entreprises, elles ont été introduites en bourse pour se refinancer, mais l'État y conserve une part majoritaire. Le risque de crédit pèse donc sur la population, même si les bénéficiaires sont des personnes privées, ces « capitalistes rouges » qui bâtissent des fortunes colossales à l'ombre de l'État. Ce rôle de l'État, hérité du maoïsme, a permis de construire des infrastructures. On a récemment évoqué la rapidité de développement du réseau de trains à grande vitesse avec l'ouverture en décembre 2012 d'une ligne Pékin-Canton de 2300 km. En 25 ans, la Chine a bâti 10 800 km de voies de chemin de fer et 300 000 km de routes. Elle envoie des hommes dans l'espace et cherche à rivaliser avec les grandes puissances industrielles dans la recherche scientifique et les technologies de pointe. Tout cela se fait sous la houlette de l'État. Une série d'interventions extérieures sont également l'œuvre de l'État. Celui-ci cherche en effet à assurer à l'économie chinoise ses approvisionnements. Depuis les années 1990, la Chine investit hors de ses frontières, dans les champs de pétrole, les mines, les terres arables et la défense de voies maritimes nécessaires à son approvisionnement. Il en est ainsi des nombreuses acquisitions foncières dans des pays comme l'Éthiopie, Madagascar, le Kenya, la Tanzanie ou la Zambie. Elle a aussi développé des relations nouvelles avec certains pays du Proche-Orient, d'Afrique et d'Amérique latine. Par ailleurs, elle a acquis des parts de dettes souveraines aux quatre coins du monde, à commencer par la dette américaine. Les bons du Trésor américain détenus par la Chine, quelques 1100 milliards de dollars, sont des placements peu lucratifs mais sûrs, ceux que les boursicoteurs et les financiers qualifient de placements de « bon père de famille ». Ceux-ci permettent de soutenir l'économie américaine, dont l'économie chinoise est tributaire pour ses exportations en particulier. Il s'agit donc de placements de, entre guillemets, père de famille, opérés là aussi par l'État chinois. Certes, des pans entiers de la planification ont été abandonnés, et à côté du secteur étatique, ou sous sa protection, toute une économie de marché fleurit également. Mais l'intervention étatique demeure et représente une grande continuité entre la Chine maoïste d'avant 1978 et la Chine contemporaine. C'est le même État, et c'est la même première phase de son développement, qui a conditionné le développement de cet, entre guillemets, « atelier du monde », si souvent présenté comme modèle. L'enrichissement frénétique de la bourgeoisie chinoise à l'ombre de l'État. Les commentateurs patentés insistent sur le rôle positif qu'aurait eu pour la population le développement des 30 dernières années. Toute une partie de la population a migré vers les villes, à la faveur de l'industrialisation. Dans les grandes villes industrielles de la côte du delta de la rivière des Perles, entre Canton, Shenzhen et Hong Kong, le niveau des salaires s'élève de quelque 20% par an à la suite de grèves et de diverses mobilisations. À $200 par mois. Ces salaires restent cependant bien inférieurs à ceux qu'ils sont dans les pays occidentaux et ne sont pas prêts de les rattraper. Et à l'échelle du pays, les salaires augmentent peu, surtout si on les rapporte à l'inflation considérable des prix de l'immobilier, de l'alimentation, de la santé. Par exemple, à Shenzhen, le salaire minimum est de 180 € par mois. Mais les prix de l'immobilier ont explosé pour atteindre 2 200 € le mètre carré, contre 8 400 € à Paris. Les travailleurs migrants, les 250 millions de Mingong, paysans ouvriers en chinois mandarin, sont souvent payés en dessous du salaire minimum légal. Ils représentent 40% de la main-d'œuvre urbaine, 2/3 de la main-d'œuvre industrielle, 80% des chantiers de construction. La part des salaires dans le PIB ne cesse de diminuer. Elle est ainsi passée de 56% en 1983 à 33% en 2010. La part de la consommation des ménages dans le PIB n'a cessé de baisser, pour atteindre 34%, un record mondial. La santé ne représente que 2% des dépenses publiques. Les inégalités dans l'enseignement se creusent. La Chine est ainsi mesurée comme un des pays, entre guillemets, les plus inégaux au monde. L'exploitation frénétique d'un nombre croissant d'ouvriers a en effet permis un important enrichissement de la bourgeoisie chinoise. Le pays compte 271 milliardaires déclarés, probablement plus du double en réalité, et 1 million de millionnaires en dollars. La Chine est le premier marché mondial du luxe et les reportages se multiplient sur cette bourgeoisie sans vergogne. Les revenus des 10% les plus riches du pays sont comparables à ceux des Européens les plus fortunés, mais, note les comparaisons, le coût de la vie et la main-d'œuvre domestique y sont moins chers. Il n'y a pas d'impôt sur l'héritage. Audi vend en Chine la moitié de sa production mondiale d'A6, premier prix 40 000 €, et toutes les grandes marques de voitures de luxe y font des affaires. L'interpénétration de cette bourgeoisie et de l'appareil d'État est flagrante à tous les niveaux. Les 70 députés les plus riches à l'Assemblée nationale populaire possèdent 90 milliards cumulés. Un tiers des 50 Chinois les plus riches, entre guillemets, conseillent officiellement le gouvernement. 30% des 1000 premières fortunes chinoises occupent une position officielle. Les dirigeants du parti et de l'État sont parmi les premiers servis. Ainsi, une enquête du New York Times, 25 octobre 2012, a estimé la fortune de Wen Jiabao, premier ministre sortant, à au moins 2,7 milliards de dollars. Entre guillemets, Papy Wen affichait pourtant en public une certaine sobriété, multipliait les apparitions auprès des petites gens et mettait en garde contre la montée des inégalités au nom de la nécessaire, entre guillemets, harmonie. Ce sont ses proches qui l'arrosaient. Sa mère de 90 ans, dont il aimait rappeler la pauvreté passée, possède ainsi, entre autres, pour 120 millions de dollars d'actions dans une société financière. Son frère cadet a bénéficié de plus de 30 millions de contrats par l'État pour sa société de traitement des eaux usées et des déchets. Sa femme était surnommée, entre guillemets, « reine des diamants » et jouait un rôle clé dans ce secteur étatique. La société de capital investissement de leur fils est devenue une des plus prospères du pays, etc. Autre exemple, Xi Jinping, le nouveau secrétaire général du parti, un, entre guillemets, prince rouge, comme on appelle les enfants enrichis de familles révolutionnaires, possède une fortune estimée à 345 millions de dollars. Une paille par rapport à celle de Wen Jiabao, mais quand même 70 000 ans du revenu moyen chinois. Bien sûr, lui non plus ne détient presque rien en propre, mais sa famille possède des résidences luxueuses à Hong Kong, des participations dans des sociétés ayant remporté des marchés publics, etc. Quant à Bo Xilei, le chef déchu de la entre guillemets municipalité autonome de Chongqing, dont les ambitions nationales étaient patentes, c'était aussi un prince rouge, le fils cossu de Bo Yibo, un des entre guillemets huit immortels, dirigeant historique de la révolution chinoise, ancien compagnon de Mao. Si le jeune Bo Xilai fut garde rouge adepte de la entre guillemets violence révolutionnaire pendant la révolution culturelle, puis en fut victime, il avait depuis longtemps délaissé le petit livre rouge de Mao pour le veau d'or. À Chongqing, ville tentaculaire de 32 millions d'habitants, affichant une croissance de 15% par an, il s'était fait une réputation d'homme à poigne, menant une guerre féroce à la mafia, à l'aide de tortures, de sévices divers et de condamnations expéditives. Ancien ministre du Commerce, il s'était placé pour la succession au sommet de l'État quand il a été suspendu de ses fonctions en mars 2012. Sans doute, Bo n'était-il pas le chevalier blanc qu'il laissait paraître. Son épouse, Gu Quilei, ancienne avocate d'affaires, a été arrêtée pour l'empoisonnement au cyanure en novembre 2011 d'un homme d'affaires britannique qui leur était lié, Neil Heywood, agent des services britanniques à ses heures perdues. Après un rocambolesque épisode, digne d'un bon roman policier, Bo Xilai lui-même fut arrêté publiquement, accusé de corruption entre guillemets massive et d'avoir recouru à des écoutes de hauts dirigeants du Parti communiste, dont le président Hu Jintao. Il a été exclu en avril 2012 et attend maintenant son procès, tandis que son ancien adjoint et son épouse croupissent pour longtemps en prison. Le Britannique était-il chargé, comme cela a été indiqué, de faire sortir de Chine des sommes colossales? On parle d'un total de 6 milliards de dollars pour la famille Bo. Nous n'en savons rien, mais ces pratiques sont courantes dans les cercles dirigeants chinois. Des agences se spécialisent ainsi dans les placements, par exemple un demi-million de dollars pour un pont près de Seattle aux États-Unis, qui donne droit à une résidence permanente à l'étranger. Envoyer sa fortune, mais aussi sa famille à l'étranger, notamment les enfants, placés dans les écoles privées UP et les universités britanniques, comme Harrow et Oxford, où étudia le fils de Bo Xilai, ou américaine, comme Harvard, où est la fille de Xi Jinping sous pseudonyme, et où a aussi étudié le fils de Bo, est devenue une pratique courante pour les membres des couches dirigeantes privilégiées. Le PCC lui-même a dit avoir sanctionné en 5 ans 660 000 de ses cadres pour corruption et en avoir fait juger 24 000 pénalement. D'une certaine manière, la cupidité de ses propres cadres menace de provoquer une explosion sociale et ainsi de tuer la poule aux œufs d'or. Mais en même temps, la bourgeoisie chinoise et les dirigeants du PCC veulent tirer le maximum des fruits de la libéralisation à l'œuvre. Ce faisant, ils bénéficient du legs maoïste auquel ils ne manquent pas de rendre un hommage aussi pieux que dérisoire. Un hommage mérité cependant, car c'est lui qui a posé les bases du développement actuel du pays. 25 février 2013.